les par actualités.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités du lundi 29 janvier 2018. Hélène Denis au micro et en manchette aujourd'hui, la livraison du courrier à domicile se poursuivra. Elle voulait acheter la maison d'un patient. Aussi, la troisième maison de répit Gilles-Carle sera à Prévost. Des résidences de soins spéciaux inquiètent de l'impact de la hausse du salaire minimum. En entrevue, je reçois Pierrette Gagné, directrice générale du Centre de référence du Grand Montréal, qui nous parlera entre autres de la mise en ligne du site web 211 ou 211 Grand Montréal, et aussi Pauline Boniface, coordonnatrice communication et financement pour le CIVA, pour nous parler de l'exposition « À ma façon », dont le vernissage a lieu aujourd'hui au Centre culturel Georges Vanier et d'une activité de financement. Le gouvernement de Justin Trudeau met définitivement un terme au programme lancé par le précédent gouvernement conservateur pour remplacer progressivement la livraison du courrier à domicile par des boîtes postales communautaires. Par contre, la livraison à domicile ne sera pas rétablie pour les quelques 840 000 foyers qu'il avait perdus depuis 2014, une décision qui déçoit notamment les aînés et les employés de Poste Canada. Cette décision signifie que la Société de la Couronne devra renoncer aux économies de 350 millions de dollars par année qu'elle comptait réaliser en supprimant la livraison du courrier aux 4,2 millions de foyers qui le reçoivent encore à la porte. Le plan des libéraux prévoit par ailleurs la création d'un groupe de travail qui devra proposer des façons de mieux servir les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite qui n'ont dorénavant plus droit à la livraison à domicile. Les libéraux avaient vaguement promis durant la campagne électorale de 2015 de sauver la livraison du courrier à domicile après la décision du précédent gouvernement conservateur de se tourner vers les boîtes postales communautaires pour permettre à Poste Canada de réaliser des économies. Le président du Réseau des fédérations de l'âge d'or du Québec, Maurice Dupont, s'est dit soulagé d'apprendre que Poste Canada cesse définitivement l'installation de nouvelles boîtes postales communautaires mais déplore que ceux qui ont perdu ce service ne le retrouveront malheureusement pas. Nouvelle dans la presse, elle voulait acheter la maison d'un patient. Une inhalothérapeute de la Couronne-Nord de Montréal a été radiée pour 6 mois par son ordre professionnel après avoir consulté le dossier médical des patients en fin de vie dans le but d'acheter leur maison à bas prix. Dans sa décision rendue en mars 2017, mais dont la sentence est tombée le 11 janvier dernier, le Conseil de discipline de l'ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec conclut que Louise Millmore s'est rendue coupable d'avoir brisé le secret professionnel en consultant sans motif professionnel les dossiers d'une vingtaine d'usagers en soins à domicile et palliatifs du CLSC et de s'être placée en conflit d'intérêts en transmettant une offre d'achat sur un immeuble d'un client des soins à domicile en consultant à cette fin 2 dossiers d'usagers. Les faits reprochés se sont produits au cours de l'hiver 2015. Selon le jugement, tout le monde savait au CLSC Jean-Olivier Chénier à Saint-Eustache que Mme Millmore était à la recherche d'une maison près de son lieu de travail. Le document rapporte que le 2 février, elle a accédé à 19 dossiers médicaux de patients suivis à domicile par une infirmière du CLSC. Pour le conseil de discipline, en prendre connaissance à des fins personnelles est l'équivalent d'en dévoiler le contenu à un tiers. L'inhalothérapeute s'intéresse particulièrement à 2 dossiers qu'elle a consultés pendant 40 et 50 minutes. Elle a questionné un de ses collègues sur l'un des patients concernés et sur la maison de ce dernier. Elle fait également une recherche poussée sur l'autre dossier, celui de MBN, afin de connaître son diagnostic. Le client est de toute évidence une personne vulnérable atteinte d'un cancer invasif et reçoit des soins palliatifs, détaille le rapport du conseil de discipline. Le client vivait seul et n'avait pas de famille. We'll be right back. Et je m'entretiens maintenant avec Pierrette Gagné, directrice générale du Centre de référence du Grand Montréal. Bonjour, Madame Gagné.
Oui, bonjour.
Alors, je pense que vous avez de bonnes nouvelles à partager avec les habitants du Grand Montréal, n'est-ce pas?
Oui, des nouvelles qui sont déjà effectives depuis le 16 janvier 2018, en fait, c'est que maintenant, les 82 municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal, ça veut dire l'agglomération de Montréal, la Rive-Nord et la Rive-Sud, ont accès à un répertoire en ligne, le 2-1 Grand Montréal, qui leur permet d'avoir de l'information sur presque 5000 ressources qui couvrent le Grand Montréal, des ressources sociales et communautaires qui peuvent leur venir en aide en cas de besoin dans toutes sortes de situations, qu'il s'agisse de dépannage alimentaire, de soins pour les personnes aînées, services à la famille, pour les personnes itinérantes, pour les personnes qui ont des problèmes d'insertion socio-professionnelle, etc.
Mmh. Alors, c'est fait, c'est mis en ligne depuis, vous me dites, une dizaine de jours, un peu plus?
Oh, oui, c'est ça. Oui, même un peu plus, puisqu'on est aujourd'hui
le 29.
Le 29, oui, c'est ça. Donc, c'est depuis le 16 janvier, effectivement. Et l'autre bonne nouvelle qu'on a annoncée en même temps, c'est que à partir au début d'avril 2018, s'ajoutera à ça un service téléphonique. Alors, les gens vont pouvoir composer 211 mm-hmm. et avoir accès à un conseiller en inforéférence qui va les diriger vers la ressource dont ils ont besoin au besoin. Et ce service-là est offert en français, en anglais, mais également dans 200 langues grâce à un partenariat qu'on a avec une maison d'interprètes là, qui peut faire le lien avec les personnes qui parlent d'autres langues et nos conseillers.
Est-ce que ça faisait longtemps que vous travailliez pour arriver à avoir ce service web et ce service téléphonique 211?
Oui, ça faisait longtemps.
Oui.
Depuis, je vous dirais, en fait, ma réponse est en deux temps. Premièrement, le centre de référence du Grand Montréal existe depuis 61 ans et on donnait sensiblement le même service. Mais entre 8h30 et 4h30, 5 jours semaine. Et c'est compte tenu de notre expertise qu'on a pu avoir une licence du CRTC pour donner le service avec un numéro beaucoup plus facile à rejoindre, le 211, et avec une extension de nos heures de service qui sont de 8h à 18h, 7 jours semaine, 365 jours par année. Donc, c'est un grand, grand pas. Mais il a fallu convaincre pour franchir ce pas-là des partenaires municipaux. Alors, mm-hmm. c'est le cas des 82 municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal et d'autres municipalités aussi qui sont ajoutées, comme celle de Vaudreuil-Soulanges, par exemple, de participer financièrement à ce projet-là, le gouvernement du Québec et aussi Centraide du Grand Montréal, qui était déjà un partenaire du centre depuis les tout débuts et qui est un partenaire, d'ailleurs, du 2-1.
Et concernant le site web, comme ça fait pas si longtemps, est-ce que les gens sont au courant? Est-ce que vous avez, vous pouvez mesurer la popularité du site web 211?
Oui, ben on a eu beaucoup de demandes déjà dans les premiers jours. Plus que 1500 visites, je crois, en quelques heures.
Quel genre de demandes?
Ben ça couvrait beaucoup de la part des organismes communautaires qui étaient en relation avec une personne qui avait besoin d'aide, comme je disais, et qui cherchait sur le site des ressources qui pouvaient venir apporter une assistance à ces personnes-là. Donc ça touche tous les besoins fondamentaux, que ce soit aide matérielle, aide alimentaire, logement, transport adapté, etc.
Et quand les gens font affaire avec votre service, est-ce que le temps de réponse est quand même assez rapide?
Oui, le temps de réponse est très rapide. On parle de mon Dieu, je dirais même pas une minute par appel. Les gens ont deux choix. Soit ils attendent en ligne, puis vraiment, je vous dis qu'on remplit cet objectif-là de durée très courte, mais ils peuvent aussi laisser un message sur la boîte vocale. Mais on voulait aussi leur permettre d'attendre en ligne, et c'est pour ça qu'on s'est assuré d'avoir les ressources suffisantes pour que le temps d'appel soit très court, parce que des fois, les gens qui appellent, ils sont dans une situation où ils peuvent pas vraiment laisser de messages sur une boîte vocale, mm-hmm. que ce soit dans une situation de violence familiale ou simplement qu'ils sont dans une boîte téléphonique, etc. Donc, on voulait vraiment donner l'option de pouvoir rester en ligne et de pas se décourager avec des longs délais d'attente.
Alors, le service téléphonique va suivre au printemps, mais on peut quand même communiquer avec vous par téléphone.
Oui, en ce moment, les gens peuvent communiquer au 514-527-1375 avec de 8h à 18h, 7 jours semaine. Mais là, il y a une étape que les compagnies de téléphone sont en train de compléter, qu'on appelle le routage, pour s'assurer que tous les gens des 82 municipalités qui bénéficient du service de 1 ont accès à cette ligne-là. Ça prend 6 mois et c'est déjà en marche depuis quelques semaines. Donc, la date ultime où tout devrait être déployé, c'est les premiers jours d'avril 2018.
Parfait. Pierrette Gagné, directrice générale du Centre de référence du Grand Montréal. Merci pour l'entrevue et à la prochaine.
Parfait, merci.
Bloc régional dans topolocal.ca, la troisième maison de répit Gilles-Carle sera à Prévost. Les personnes de la région qui se dévouent à aider des proches aux prises avec de graves problèmes de santé pourront profiter d'ici un an d'une ressource pour leur permettre de souffler un peu. Si tout se passe comme prévu, une maison Gilles-Carle, destinée à l'hébergement temporaire de personnes souffrant de dégénérescence cognitive, verra en effet le jour à Prévost. La résidence comprendra une douzaine de chambres où la personne aidée pourra être hébergée entre une journée et un mois, de façon à permettre à son aidant naturel de prendre du repos. Le projet de la Fondation Maison Gilles-Carle est mené en collaboration avec l'organisme Massilia Ma Maison, créé à Prévost par Marlène Chappé, intervenante en gérontologie et elle-même aidante naturelle auprès de sa grand-mère depuis 10 ans. Madame Chappé travaille d'arrache-pied depuis quelques années à mettre sur pied un tel service de répit. Elle a cogné à de nombreuses portes, souvent sans résultat. La fondation a été créée par la chanteuse et comédienne Chloé Sainte-Marie en mémoire de son conjoint, le réputé cinéaste Gilles-Carle, mort en 2009 après avoir souffert de la maladie de Parkinson durant une quinzaine d'années. S'étant consacrée à soutenir son compagnon tout le long de ce douloureux parcours, Chloé Sainte-Marie connaît fort bien les défis que rencontrent les aidants naturels. Seul un aidant reposé et en santé peut alléger le supplice de la personne malade dont il prend soin, constate-t-elle. Dans l'éclaireurprogrès.ca, des panneaux rappellent les droits des usagers du système de santé. Le comité des usagers de Beauce a présenté des panneaux expliquant les droits des usagers à l'hôpital de Saint-Georges. Ceux-ci ont été installés dans le couloir à gauche de l'entrée principale il y a environ 2 mois. Ils indiquent les droits des usagers du système de santé. Le but est de faire en sorte que ces derniers connaissent leurs droits et obligations lorsqu'ils font appel à l'un des services offerts par le système de santé. Le président du comité, Bernard Poulin, mentionne ne pas avoir trouvé d'autres endroits où un tel projet a été mis en place. Poulin a tenu à ce que les panneaux soient bien visibles. Pour sa part, le vice-président du comité, Roland Poulin, a rappelé les 12 droits des usagers inscrits dans la loi. D'abord, tout usager a droit à l'information. Il a aussi droit au service, au choix du professionnel ou de l'établissement, de recevoir les soins que requiert son état, de consentir ou de refuser des soins, de participer aux décisions, d'être accompagné, assisté et représenté, le droit de l'hébergement, d'être servi en anglais, d'avoir accès à son dossier, à la confidentialité de son dossier et de porter plainte, énumère-t-il. Nous allons en installer de plus petits dans les CHSLD, les CLSC et dans les résidences régies par le CI3S pour qu'ils apprennent à connaître le comité des usagers de Beauce, conclut Bernard Poulin. Il est possible de rejoindre le comité par téléphone 418-774-3304, 418-774-3304, poste 32575, 32575, ou par courriel à l'adresse cube.cubb.cisss-ca@commercial.ssss.gouv.qc.ca. Et je m'entretiens avec Pauline Boniface, coordonnatrice communication et financement pour le CIVA. Le CIVA qui aide depuis 1961 des jeunes et des adultes qui vivent avec un handicap à avoir une vie saine et active. Bonjour, Madame Boniface.
Bonjour.
Alors, on profite de vous aujourd'hui pour nous parler de deux événements. Une exposition qui a lieu à partir de cet après-midi au Centre culturel Georges Vanier. Et puis aussi une activité de financement. D'abord, l'exposition. Quel est le thème de cet événement?
Alors, notre exposition s'appelle « À ma façon » et le thème, en fait, ça a été l'exploration aborder un sujet personnel par nos artistes en essayant de créer une œuvre vraiment, vraiment personnelle, soit qui réinterprète le travail de certains artistes comme Juan Miró ou Jean-Michel Basquiat, ou alors sur quelque chose de vraiment créé par chacun de nos artistes.
Et combien d'œuvres on peut admirer à cette exposition?
On a mis en place 20 œuvres.
20 œuvres?
Oui, tout à fait.
OK. Pouvez-vous nous en décrire quelques-unes?
Oui, on a des choses et des styles très différents. Donc, on a trois œuvres qui s'inspirent du travail de Juan Miró, donc des choses un petit peu plus abstraites et très colorées. Mm-hmm. On en a deux qui ont été inspirées du travail de Jean-Michel Basquiat, donc là, un petit peu plus sombre, mais aussi... revue vraiment par certains de nos artistes. Et on a certaines choses plus figuratives, on a des portraits, de paysages, vraiment une multitude d'œuvres différentes.
Et ce sont des tableaux, de la peinture, il n'y a pas de sculpture?
Non, c'est de la peinture uniquement.
Et combien d'élèves ont participé à l'exposition?
On a 16 artistes qui sont exposés au total pour cette exposition-là, à ma façon.
Donc, le vernissage a lieu cet après-midi à 14h. C'est au Centre culturel Georges Vanier. C'est sur la rue Vinette, si je ne m'abuse.
Oui, et Workman, croisement Workman.
Oui, oui,
tout
oui.
À fait, c'est ça.
Et l'exposition se poursuit, jusqu'à quand?
Alors, elle a commencé le 25 janvier. Cet après-midi, c'est le vernissage et puis elle sera là jusqu'au 1er mars.
D'accord. Et vous êtes ouvert 7 jours sur 7?
Oui, il faudrait que je vérifie ça avec le centre culturel exactement, mais oui, elle est visible tous les jours.
Et si on a envie d'être présent au vernissage cet après-midi, est-ce que tout le monde est invité?
Bien sûr, c'est ouvert à tous. Tout le monde est bienvenu pour venir découvrir ce travail qui a été fait avec beaucoup de concentration et beaucoup de persévérance par tous nos membres. Donc, on serait ravis d'accueillir tout le monde cet après-midi, oui.
D'accord. Alors, on ira voir l'exposition intitulée, je le rappelle, « À ma façon ». Et maintenant, à votre façon, si je peux dire, petit lien facile, vous nous parlez d'une activité de financement, le basketon. Qu'est-ce que le basketon?
Le basketon, donc c'est une, comme vous l'avez dit, une activité de financement qu'on met en place deux fois par an, au mois de mars et au mois de novembre. C'est en fait une journée de tournoi de basketball en fauteuil roulant, avec une édition matinale et une qui se déroule l'après-midi, qui nous permet donc de lever des fonds pour le sport et notamment le basket en fauteuil que nous pratiquons à l'année au CIVA.
Alors, qui peut participer au basketon?
Tout le monde. Ce sont des équipes ouvertes. Ça peut être de la famille, de nos joueurs, des amis. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui viennent jouer au basketon qui utilisent ça comme occasion de team building, par exemple.
De
team building.
Team building.
Des activités de... vous me posez une colle, je ne sais pas comment on le dit autrement.
Oui, team pour équipe et building pour building.
Exactement. Ce sont des activités de cohésion. Voilà, cohésion de groupe, c'est ça que je cherchais.
Bon.
Donc, qui sont aussi qui se pratiquent beaucoup en entreprise et qui permettent de partager un bon moment pour les équipes aussi. Mm-hmm. Et donc on a toute une matinée ou après-midi de jeux avec différents matchs qui vont se dérouler et une remise de prix à la fin de la journée d'activité.
Alors ça se passe le samedi 10 mars et les gens ont jusqu'au 2 mars pour s'inscrire.
Tout à fait. C'est ça, c'est $200 par équipe et il peut y avoir entre 5 et 8 joueurs par équipe.
Mm-hmm. Et ça va se passer où?
À l'école Joseph Charbonneau. Donc c'est 8200 rue Rousselot. Voilà.
Oui. Alors, il y en a pour tous les goûts chez vous, pour les artistes et pour les sportifs.
On en a pour tout le monde et on est ouvert à tous et prêt à faire participer un maximum de personnes à nos activités.
Très bien. Alors, je rappelle que l'exposition Ma façon a lieu au Centre culturel Georges Vanier et le basketon à l'école Joseph Charbonneau. Et l'exposition est en cours, puis le basketon, ça va se dérouler le 10 mars. Pauline Boniface, coordonnatrice communication et financement pour le CIVA, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Bonne journée.
Vous aussi.
Merci.
Et maintenant, national et international, dans lelézard.com, le comité consultatif, dis-je bien, des personnes handicapées, tient sa première réunion. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance d'appuyer les personnes handicapées et les membres de leur famille en s'assurant qu'ils aient accès à l'ensemble des crédits et des prestations auxquels ils ont droit. À cet égard, l'Agence du revenu du Canada s'est engagée à administrer les mesures visant les personnes handicapées de façon équitable, transparente et accessible. L'agence demeure aussi engagée à améliorer ses pratiques administratives, la qualité de ses services et la livraison de crédits et de prestations pour personnes handicapées. Aujourd'hui, l'honorable Diane Leboutillier, ministre du Revenu national, a participé à la première réunion du Comité consultatif des personnes handicapées, CCPH, suite à son rétablissement annoncé en novembre 2017. La ministre Leboutillier a profité de cette réunion pour souligner l'expertise des membres du comité et réaffirmer l'importance de considérer par principe d'équité l'ensemble des personnes handicapées dans les recommandations qui seront mises de l'avant. Pour sa part, le CCPH a discuté de son mandat et de ses objectifs ainsi que des pratiques exemplaires pour mobiliser les personnes handicapées, les médecins et les autres intervenants clés. Le comité a également discuté des lois en vigueur et des pratiques administratives de l'Agence du revenu du Canada. À l'avenir, le comité consultatif des personnes handicapées renseignera l'Agence sur la façon dont les mesures fiscales peuvent mieux répondre aux besoins et aux attentes des personnes handicapées. En outre, il examinera et formulera des commentaires au sujet des pratiques administratives de l'Agence du revenu du Canada, et formulera des recommandations sur la façon dont l'agence peut améliorer la qualité des services offerts aux personnes handicapées. Sur le site de Radio-Canada, des résidences de soins spéciaux inquiètent de l'impact de la hausse du salaire minimum. Les résidences ontariennes de soins spéciaux se plaignent d'être asphyxiées par des coûts de fonctionnement élevés et craignent l'impact de la hausse du salaire minimum qui est passé à 14 $ l'heure le 1er janvier. Ces établissements qui prennent soin d'adultes qui souffrent d'un handicap physique, de problèmes psychiatriques ou de déficience mentale emploient des personnes au salaire minimum. Ce secteur d'activité compte 600 résidences pour environ 6 000 patients. Gaétan Brisson, président de la résidence Sainte-Marie à Var, près d'Ottawa, estime que l'augmentation du salaire minimum coûtera à son établissement entre 22 000 $ et 25 000 $. Il ne s'agit là que d'une estimation du budget salarial, souligne-t-il. Il emploie 10 personnes, dont 8 sont payées au salaire minimum. Les propriétaires des foyers craignent l'impact de la hausse du salaire minimum sur les services alimentaires, les frais d'entretien des locaux et d'autres services essentiels. Nos budgets vont augmenter de 25 à 35 % La clientèle a besoin de soins particuliers 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, précise Connie Evans. Les foyers reçoivent de 50 à 52 $ par jour et par client de la province, mais jugent ces sommes insuffisantes pour leur fonctionnement. Le gouvernement provincial a procédé à une hausse de 6 % du financement entre juillet 2017 et janvier 2018, après 4 ans sans augmentation. Le déminage intensif de la Colombie avec handicap international. La Colombie est le deuxième pays au monde le plus affecté par les mines antipersonnelles après l'Afghanistan. Le pays a débuté le déminage d'une partie de son territoire dans le but d'être libre de ses explosifs en 2021. Après 53 ans de conflit, on estime que la majorité des municipalités du pays sont concernées. On compte plus de 11 100 personnes victimes. Parmi les ONG qui s'activent, il y a Handicap International, présente en Colombie depuis 1985. Elle a lancé en février 2017 ses opérations de déminage dans 3 anciens bastions des FARC, les départements du Cauca, du Meta et de Caquetá. Les opérations doivent durer 5 ans. Nos correspondantes Najet Banrabaha et Sarah Nabli se sont rendues dans le département du Meta, l'un des plus affectés par la présence de mines. C'est tiré d'un grand reportage signé RFI. Et le Centre Horizon de Liri entame sa deuxième phase majeure de rénovation du pavillon Robert Goyette. Les travaux, au coût de près de 150 000 $, comprennent l'aménagement de chambres au sous-sol et l'ajout d'un ascenseur, souligne Lynn Loisel, présidente du centre. Les nouvelles installations serviront dès la mi-mars à l'offre du service de répit avec coucher les fins de semaine à l'intention des personnes âgées de 6 ans et plus vivant avec un handicap. En semaine, les chambres se transformeront en locaux pour la tenue d'ateliers d'hiver. Madame Loisel parle de l'art-thérapie et de la musicothérapie, entre autres. On va doubler la superficie du centre, se réjouit la présidente. Pour la réalisation des travaux, le Centre Horizon bénéficie de la contribution de donateurs anonymes, précise Madame Loisel. Le centre profite également d'une aide financière de 30 000 $ de la Fondation Rick Hansen dans le cadre du 150e anniversaire du Canada pour une plus grande accessibilité. Le Centre Horizon procédera au lancement officiel des travaux le vendredi 26 janvier à l'occasion d'un cocktail dînatoire. Alors, c'est passé! L'établissement offre des activités de jour aux adultes handicapés de plus de 21 ans. Le but, une meilleure conciliation travail-famille pour leurs proches. Ici Hélène Denis, un grand merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'émission Les Paractualités. Merci à mes invités, Pierrette Gagné du Centre de référence du Grand Montréal et Pauline Boniface pour le CIVA. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté à la technique. Ici Hélène Denis, à bientôt.